Dystrophie myotonique, c'est un nom qui pourrait faire peur, rebuter, et ceci dit, il faut le démystifier. Il y a des gens qui le font, surtout que nos voisins, j'allais dire, les habitants du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont plus souvent aux prises avec ce trouble, cette maladie. Alors avec nous, Cynthia Gagnon, qui est directrice scientifique du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, qui est associée au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, est avec nous. Bonjour, Madame Gagnon.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là.
Ben, ça me fait plaisir, puis merci pour l'invitation pour, dans le fond, aider à vulgariser qu'est-ce que la dystrophie myotonique. Je pense que c'est très important, puis je suis très content de l'attention qui est portée à cette maladie-là.
Ben voilà, alors on fait un effort de vulgarisation ensemble. Faut dire que on le fait ensemble, mais c'est d'abord votre équipe qui le fait. Peut-être que vous pourriez d'emblée nous dire en quoi ça consiste exactement.
Oui, tout à fait. Donc, la dystrophie myotonique, c'est une maladie neuromusculaire. Donc, comme son nom l'indique, qui va affecter principalement les muscles. Mm-hmm. C'est une maladie qui est lentement progressive. Donc, comparativement, par exemple, à la sclérose latérale amyotrophique, que souvent le public connaît plus, c'est une maladie qui va progresser sur des années. On parle d'à peu près 1% de perte de force musculaire. Mm-hmm. Ça va être vraiment un patron très particulier, c'est-à-dire que ça va du bout des doigts aux épaules et du bout des orteils aux hanches. Mm-hmm. Donc, progressivement, on va avoir de la misère à relever le pied, à prendre des objets, et tranquillement, pas vite, ça va affecter la marche et la capacité de faire l'ensemble des activités de la vie quotidienne.
Donc, c'est vraiment sur le long terme, là. Est-ce que c'est plus facile pour les personnes qui le vivent de faire le deuil ainsi, ou comment ça se passe, comment c'est vécu par les personnes?
Bien, d'abord, il faut savoir que c'est une maladie qui est plus complexe dans sa présentation clinique, parce que dans le fond, il y a d'abord, je dirais, quatre portraits cliniques. Alors, normalement, on a le grand-père, mm-hmm. qui a 50-60 ans, okay. qui a des cataractes et un peu de misère à ouvrir la main quand il prend des objets. Okay. Il a eu ses enfants sans savoir qu'il y avait la maladie, mm-hmm. et son fils, dans la vingtaine, va commencer à avoir des atteintes musculaires. Et par la suite, si lui a des enfants sans le savoir, là, on va avoir des atteintes au niveau pédiatrique, donc, dans le fond, à l'adolescence ou même à la naissance, chez la forme la plus sévère, qu'on va appeler la forme congénitale, donc qui arrive avec des enfants vraiment hypotoniques, avec des problèmes de succion, des problèmes respiratoires et des déficiences intellectuelles sévères. Mm-hmm. Fait que dépendamment de la forme, je vous dirais que oui, c'est un processus qui est beaucoup plus à long terme. Donc, les gens vont avoir le temps de s'adapter à la maladie. Ça n'en reste pas moins une maladie qui a des conséquences vraiment importantes sur la capacité à travailler, aller à l'école, à s'occuper de ses enfants aussi là, quand la maladie progresse. Donc, c'est vraiment... Mais c'est moins rapide, dans le fond, que la sclérose, que la SLA.
Et bon, ceci dit, il y a quand même, j'imagine, des densités. En fait, là, vous parliez d'une déficience plus lourde là, chez certains nouveau-nés dans sa forme congénitale. Malgré tout, c'est ça, vous le dites, il y a possibilité que ce soit plus difficile pour certains cas, là.
Ah oui, tout à fait. Puis, c'est une maladie familiale, parce que c'est une maladie qui est dominante. Donc, on a une chance sur deux de transmettre la maladie à notre enfant à chaque naissance.
Et donc, c'est une maladie génétique qu'on...
Oui, exactement. Ouais. Une maladie génétique. Et souvent, c'est parce que le père ou le grand-père ou la mère ou la grand-mère ne sont pas au courant qu'ils ont la maladie. Donc, ça va ça va se transmettre sur quelques générations avant qu'on ait vraiment le premier diagnostic. Au Canada, c'est moins le cas parce que la maladie, bon, à cause du Saguenay et du Québec en général, est plus fréquente. Mm-hmm. Mais quand on parle des États-Unis ou ailleurs dans le monde, souvent la maladie va être diagnostiquée, dans le fond, quand on va avoir une forme pédiatrique. Et là, on va remonter et on va savoir que la mère ou la grand-mère avait certains symptômes, mais qui sont passés un peu inaperçus ou qui ont eu d'autres diagnostics.
De là, l'importance de proposer des outils pour expliquer, vulgariser aux gens. Vous avez rédigé un outil pour aider à détecter, à informer davantage sur la maladie. Qu'en est-il de ce projet exactement?
Oui. Bien, dans le fond, nous, on avait déjà produit comme groupe de recherche des guides de pratique, dans le fond, pour les médecins de famille,
pour les professionnels. Oui.
Oui, exactement, et pour les neurologues. Mm-hmm. Et on a un organisme régional qui fait de l'éducation à la génétique chez la population en général au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'appelle CORAM. Mm. Et dans le fond, cet organisme-là vise à mieux outiller la personne en lien, dans le fond, les familles de la région en lien avec l'hérédité, les maladies génétiques, mais aussi aussi a développé plus récemment un volet pour outiller les patients pour vraiment connaître les signes de leur maladie et les aider, dans le fond, à mieux se prendre en charge et à aussi informer les professionnels de la santé. Parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment, c'est une maladie plus commune, entre guillemets, et donc les professionnels de santé, généralement, sont au courant des principales manifestations. Mais dès qu'on sort du Saguenay, on peut s'attendre à ce que le médecin de famille ou l'ergothérapeute ou le neurologue ne connaissent pas très bien cette maladie. Et c'est tout à fait normal.
Ben
là,
oui.
Je veux dire, on parle maintenant de 6000 maladies rares, donc on ne peut pas s'attendre à ce que notre médecin connaisse tout ça. Donc, le but, c'est vraiment que le patient et sa famille connaissent mieux les signes, dans le fond, les signes importants à surveiller, les actions à poser. Bon, il faut que je passe un examen cardiaque à chaque année.
Oui.
Il faut que je me fasse vacciner à chaque année. Donc, c'est déjà très simple. Mais si les personnes sont bien informées, ben, ils vont être capables aussi d'informer leurs professionnels de la santé des gestes à poser.
Est-ce que ça peut même avoir...
Excusez-moi,
est-ce que ça peut même avoir un impact sur la progression de la maladie que de le savoir en avance? Est-ce qu'on a accès à des traitements? Oui.
Tout à fait, parce que la deuxième cause de décès dans la dystrophie myotonique, c'est l'atteinte cardiaque. Mais cette atteinte-là, elle est silencieuse. Donc,
si la
personne ne passe pas son électrocardiogramme à chaque année, il se pourrait que sa condition se détériore et qu'un jour, on arrive à une mort subite. Ça aurait été en partie prévenant parce qu'on peut implanter un pacemaker ou un défibrillateur dépendamment de la problématique et ainsi prévenir un événement cardiaque. Donc, c'est vraiment important là, d'aller faire ce dépistage-là à chaque année parce que la majorité des gens n'auront aucun symptôme que leur atteinte cardiaque est en train de progresser. Donc, oui, on peut avoir vraiment un impact là, sur la progression de certains symptômes ou la gestion de certains symptômes.
Donc, aidons les gens à s'aider en décelant, en retraçant mieux cette maladie. Il est possible d'accéder à la brochure via Internet, j'imagine?
Oui, c'est-à-dire que Coram, présentement, elle est disponible pour les cliniques des maladies neuromusculaires. Par un concours de circonstances, Coram est en train de faire la refonte de son site web.
Ah.
Donc, dès que le site web va être mis à jour, on va avoir accès à la brochure en ligne.
Donc, pour l'instant, c'est dans les cliniques, dans le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, on pourrait le retrouver, mais dans combien de temps on pourrait espérer sur Internet?
Probablement un mois, on va être capable d'accéder
donc,
à la brochure.
Donc, on le donne, ce site web, c'est le coramh.org, donc pour la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires, le CORAM. Merci beaucoup, Cynthia Gagnon. Bravo pour votre travail. Rappelons que vous êtes directrice scientifique du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Merci, Mme Gagnon.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.